Les rivières au micro. Avec l'écho de l'eau. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous écoutez l'écho de l'eau sur Radio Alliance Plus. Nous sommes Elena et Julie de la Fédération de pêche du Gard et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une menace majeure pour l'avenir de la planète. Oui, chers auditeurs, l'heure est grave et on estime que vous devez savoir. Au moment même où nous enregistrons cet épisode, une invasion est en cours. De petits êtres verts, venus d'ailleurs, sont en train d'envahir en toute impunité le sud-est de la France, semant la mort et la destruction sur leur passage.
Attendez, vous pensiez vraiment aux extraterrestres ? Désolée de vous décevoir, mais c'est bien plus grave que ça. Aujourd'hui, on va vous parler des plantes exotiques envahissantes. Bon, tout d'abord, je m'excuse parce qu'on va être obligé de commencer l'épisode par un peu de théorie avec une définition, mais on vous promet, on va faire vite. Une espèce exotique envahissante, c'est une espèce introduite par l'homme sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales. Bon, en gros, c'est une espèce qui n'a rien à faire là où elle est et qui perturbe l'environnement.
Mine de rien, les invasions biologiques, c'est une des principales raisons du déclin de la biodiversité mondiale. Et on estime que depuis 1970, les dépenses liées à cette problématique dans le monde dépassent 1000 milliards de dollars. Donc c'est à prendre très au sérieux. Quand on pense aux espèces exotiques envahissantes, on pense le plus souvent à des animaux, comme le ragondin ou certaines espèces d'écrevisses. Mais bien entendu, il existe la même chose chez les végétaux. Et les espèces dans ce cas-là sont très nombreuses. Alors juste en Occitanie, il y en a des dizaines. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un focus sur trois d'entre elles qui menacent les milieux aquatiques du Gard.
La première dont nous allons parler, elle est assez connue, c'est la renouée du Japon. C'est une grande plante herbacée qui peut atteindre les 4 mètres de haut et qui est assez facile à identifier parce qu'elle a de grandes tiges creuses comme le bambou, mais avec de grandes feuilles vertes. Comme vous pouvez vous en douter, la renouée du Japon est originaire d'Asie. Elle a été introduite en Europe volontairement il y a 200 ans, par un médecin bavarois qui a ramené plein de plantes d'un voyage en Asie dans le but de les vendre comme plantes ornementales.
Bon, on le veut pas, l'intention était bonne, la botanique c'est un super passe-temps, mais le problème c'est que la renouée du Japon s'est très bien adaptée à son nouvel environnement. Et aujourd'hui, elle cause de gros dégâts. Pour vous dire à quel point elle est problématique, elle fait partie des 100 espèces exotiques envahissantes les plus néfastes au monde. Mais alors pourquoi la renouée du Japon est-elle si néfaste que ça?
Déjà, c'est parce qu'elle est ultra résistante. Une fois qu'elle a colonisé un milieu, bon courage pour l'éradiquer. Elle n'a pas de prédateurs et même si vous lui arrachez ses feuilles et ses tiges, ce n'est pas ça qui l'arrêtera de pousser. En fait, la renouée a ce qu'on appelle des rhizomes, c'est-à-dire des tiges souterraines qui ont deux fonctions. Des fonctions de réserve alimentaire et une autre fonction de reproduction. Donc si on veut éradiquer la renouée d'un milieu, il faut arracher tous les rhizomes. Il suffit d'un seul centimètre de rhizome resté dans le sol pour que la renouée reparte comme si de rien n'était.
Ensuite, lorsqu'elle colonise un milieu, la biodiversité diminue considérablement. En fait, elle empêche le développement des autres espèces parce qu'elle pousse très rapidement, jusqu'à 10 cm par jour. Elle résiste aux polluants et ses racines libèrent des substances chimiques qui tuent les autres plantes à proximité. On estime que quand les berges d'un cours d'eau sont colonisées par la renouée du Japon, l'abondance d'invertébrés diminue en moyenne de 40%. Donc forcément, s'il y a moins d'invertébrés, il y aura moins d'amphibiens, moins d'oiseaux, moins de mammifères, etc.
Vous vous en doutez, mais si on vous en parle, c'est que c'est une espèce qui apprécie les milieux humides. Elle s'installe souvent en masse sur les berges, sauf que quand les tiges meurent durant l'hiver à cause du froid, les berges se retrouvent presque à nu au printemps. Et qu'est-ce qu'il se passe au printemps? Eh bien il pleut, et il pleut beaucoup. Et une berge à nu en période de forte pluie, elle va s'éroder beaucoup plus vite que si elle était végétalisée. Et ça, c'est pas bon du tout. Au-delà du fait que ça peut être très dangereux pour les bâtiments construits à proximité des cours d'eau, ça augmente aussi la quantité de sédiments et de matière en suspension dans la rivière, ce qui peut être très néfaste pour la biodiversité aquatique.
La deuxième plante exotique envahissante dont nous allons vous parler est un peu moins connue que la renouée du Japon, parce qu'elle est moins répandue pour le moment, mais elle a aussi un impact énorme sur les rivières. L'histoire la plus probable pour expliquer l'origine de cette invasion est la suivante. Il était une fois un monsieur ou une dame qui avait un aquarium avec des poissons. Un beau jour, cette personne, prise d'un élan de gentillesse, décida de rendre leur liberté à ces poissons. Elle prit alors son aquarium et le déversa dans le cours d'eau le plus proche, fière d'elle en pensant que ses poissons lui seraient éternellement reconnaissants et qu'elle l'assurerait sa place au paradis.
Sauf que pas du tout. Déjà parce que mettre des poissons d'aquarium dans un cours d'eau, c'est pas une bonne idée. Ils vont sûrement se faire manger par un brochet dans la demi-heure, et s'ils survivent, ils peuvent dérégler l'écosystème. Mais le plus gros problème de cette histoire, c'est que dans cet aquarium, il y avait aussi une plante appelée Pistia stracciotes, plus connue sous le nom de laitue d'eau. C'est une espèce originaire d'Amérique du Sud, qui a été beaucoup commercialisée pour l'aquariophilie comme plante décorative. Elle est assez simple à identifier, parce qu'elle ressemble vraiment à une sorte de laitue, qui flotte et qui dérive, avec de grandes racines qui pendent dans l'eau. Ça a pour conséquence qu'elle avance au fil des courants, et qu'elle peut très facilement coloniser de nouveaux milieux.
C'est une espèce qui peut se multiplier très vite en se clonant. Et quand les conditions sont bonnes, pendant l'été, elle peut recouvrir la quasi-totalité d'un cours d'eau. Et le problème, c'est que quand ça arrive, ça empêche à la fois la lumière d'entrer dans l'eau, donc ça tue la végétation aquatique, et ça empêche les échanges gazeux entre l'air et l'eau. L'eau devient très pauvre en oxygène, au point que nos pauvres petits poissons ne peuvent pas survivre. Donc, morale de l'histoire, vider son aquarium dans un cours d'eau, ça peut sembler être une bonne idée, mais il faut jamais faire ça. Ni avec son aquarium, ni avec quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Parce que malheureusement, la laitue d'eau n'est pas un cas isolé. En fait, il y a plein d'autres espèces exotiques envahissantes qui à l'origine sont des animaux de compagnie relâchés par leurs propriétaires. On a par exemple la tortue de Floride ou même le poisson rouge.
La dernière espèce dont nous allons vous parler, c'est la grande Jussie. C'est une plante aquatique originaire d'Amérique du Sud, et un peu comme la renouée, on l'a introduite il y a 200 ans en Europe comme plante ornementale, parce qu'elle au moins, elle a un avantage, c'est qu'elle fait de magnifiques fleurs jaunes l'été. À l'origine, elle était utilisée dans les bassins ornementaux, les jardins, les mares. Mais forcément, un jour, la bête s'est échappée. Elle a fini par rejoindre les rivières et les étangs, et c'est là que les ennuis ont commencé.
En fait, il suffit qu'un tout petit bout de racine soit dans de bonnes conditions environnementales pour donner un nouveau plant. Sauf que la Jussie, c'est une plante qui se développe très facilement. Elle supporte des températures et des niveaux d'eau très variables. Elle apprécie à peu près tous les types de sols et supporte même très bien la pollution de l'eau. Aujourd'hui, elle est présente sur de nombreux fleuves et étangs de la façade atlantique et méditerranéenne, et elle ne se contente pas de nous faire de jolies fleurs l'été, sinon ça serait pas un problème en soi.
En fait, la Jussie a une croissance tellement rapide qu'elle fait des sortes d'énormes buissons très denses qui empêchent le développement des autres espèces végétales. Ils prennent alors tout l'espace disponible, captent toute la lumière et consomment tous les nutriments. D'ailleurs, si rien n'est fait pour freiner sa propagation, la Jussie peut se développer au point de combler complètement un étang. Et dans le cas où elle se développe trop en fleuve, elle freine le débit.
Bref. Tout ça pour dire que les menaces qui pèsent sur les milieux aquatiques n'ont pas toujours l'apparence d'une menace. C'est même rarement le cas. La preuve étant que les trois espèces dont on a parlé ont été introduites volontairement pour des raisons esthétiques. Si pendant cet épisode vous vous êtes dit que vous avez déjà vu une plante qui correspond à une des descriptions qu'on a fait, eh bien n'hésitez pas à vérifier si c'est le cas. Il y a des tas de guides d'identification sur internet qui sont disponibles. Et si jamais il s'agit bel et bien d'une espèce exotique envahissante, c'est important de signaler votre découverte. Vous pouvez le faire notamment sur le site de l'OFB ou directement à la Fédération de pêche du Gard.
Chers auditeurs, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts sur le site Radio Alliance Plus. Nous, on vous dit à dans 2 semaines et la prochaine fois, si vous voulez vraiment rendre à Bubule sa liberté, réfléchissez-y bien à 2 fois.